ça manque pas de poésie. Christine Fusarelli. Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission d'avril. Le printemps des poètes, c'était au mois de mars, mais la poésie, c'est toute l'année. Donc, on continue avec Thierry Cutel, qui est notre invité aujourd'hui, qui est mon invité aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi je prends une première personne du pluriel. Thierry Cutel, vous avez fait connaissance avec lui pendant l'émission de février, où il avait eu l'occasion d'évoquer deux des poètes qu'il aimait particulièrement, enfin qu'il aime particulièrement, Fernando Pessoa et Gerasim Luca. Et pour cette émission d'avril, ce seront essentiellement des poèmes de Thierry Cutel, dits par Thierry Cutel et un petit peu par moi aussi. Et le menu de notre émission d'aujourd'hui est fourni, donc on va entrer tout de suite dans le vif du sujet, puisque vous connaissez déjà Thierry. Donc, place au texte. Et une seule question, Thierry, es-tu sûr d'être réellement vivant ?
Né en 1968. Signe particulier. Néant. Le néant m'habite. Le néant m'abrite une part de vivant depuis que mon père a transpercé ma mère et inversement, l'eau des vivants coule dans mes veines. Néant. Chien fidèle. Errant. Je t'avais oublié là sous mon oreiller, tu reviens m'aboyer au visage néant. Né à néant. Je vais crever, vraisemblablement. Je vais crever, vraisemblablement. Quelle drôle d'idée, en me réveillant. Viens taper du pied, viens battre le temps. C'est mon cœur qui fait pan. C'est mon cœur qui fait pan. C'est mon cœur qui perd pied là sous mon oreiller. Je t'avais oublié, néant. Je vais crever les pneus. Du vélo du curé, le paradis des autres. Rien à péter, c'est pour les paralysés. Je ne le suis qu'à moitié. Je vais foutre le feu à vos publicités où de belles personnes ont de belles idées sur la tête de mes pieds. Je les jure et craché le jour où je suis né athée, atterré, arrimé à la terre de mes pieds, dévalant, dévorant la pente des années. Mon poème à la mort vaut nez, mon poème à la rage aux dents. Je ne veux pas ne pas crever, je veux juste avant être vivant. 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 Tu parles, moi je parle pas toi. Toi quand tu parles c'est pareil à un feu de bois. Y'a pas d'eau dans ta langue, y'a que des toits, que des autres pareils. Toi quand tu parles t'aboies et tu m'aboies dans les oreilles. Des il faut, des on doit, tu parles, moi je parle pas toi. Moi je parle pas toi, toi tu parles mais c'est pas pareil. Toi quand tu parles, c'est pas toi qui parles. C'est un appareil d'état qui sourd par ta voix. Je t'entends pas quand tu parles. Mais l'entend lui, l'appareil sans poids, des corps sans appel. Les colliers de perles passés au cou, des sans voix. Quand tu parles, ça s'entend que tu parles, le parle-appareil. Moi, je parle patois, le patois que tu parles, toi, c'est le patois de tes pères. Des possédants, des ayants droit, des ayants voix au chapitre, des experts, les perdants. C'est pas ton affaire, toi, quand tu parles, ça s'enterre, ça s'enferme, ça semblant. Ça dit tout, tout et son contraire, ça s'avoue en l'air entre soi. Quand tu parles, ça se vautre dans la soie, que des autres, pareil. Toi, quand tu parles, parle, ça parle à pareil. Toi, quand tu parles, parle, parle, ça parle à pareil. Moi je parle pas toi, toi quand tu parles c'est pareil à un feu de bois. Y'a pas d'eau dans ta langue, y'a que des toits, que des autres pareils. Toi quand tu parles ça s'enterre. Le patois que tu parles c'est le patois des cimetières. Ça pue la mort quand tu parles, toi la mort tu parles, le parle à pareil. Toi quand tu parles, parle, parle, ça parle à pareil. Toi quand tu parles, parle, ça parle à pareil. Me parle plus, je veux plus t'entendre passer par ma voix. Désormais, je prends la parole sans toi. Vivant. Vivant.
Qu'est-ce qui fait qu'on a envie d'écrire? Qu'est-ce qu'on recherche? Comment on s'y prend? On peut imaginer que chaque poète se pose ce type de questions à un moment ou à un autre. Dans un ouvrage de notes qui s'appelle « Pendant la matière », Valère Novarina évoque justement ce que représente l'écriture pour lui. Voici un court extrait pour lancer nos commentaires sur le sujet. Le livre n'avance que par destruction et réouverture des langues, en déchirement, par dévoilement. Pratiquer une ouverture de soi et une chute libre à l'intérieur des mots. Pratique du vide et ouverture de notre chair mentale. La pensée s'y précipite. Pratique le saut. J'ai toujours pratiqué la littérature, non comme un exercice intelligent, mais comme une cure d'idiotie. Je m'y livre laborieusement, méthodiquement, quotidiennement, comme à une science d'ignorance. Descendre, faire le vide, chercher à en savoir tous les jours un peu moins que les machines. Beaucoup de gens très intelligents aujourd'hui, très informés, qui éclairent le lecteur, lui disent où il faut aller, où va le progrès, ce qu'il faut penser, où poser les pieds. Je me vois plutôt comme celui qui lui bande les yeux, comme un qui a été doué d'ignorance et qui voudrait l'offrir à ceux qui en savent trop. Un porteur d'ombre, un montreur d'ombre pour ceux qui trouvent la scène trop éclairée. Quelqu'un qui a été doué d'un manque, quelqu'un qui a reçu quelque chose en moins. Ce que j'ai toujours recherché en écrivant, c'est le moment où ce n'est plus un écrivain qui écrit, mais quelqu'un qui est sorti de soi, moment qui ne se trouve qu'au bout du long chemin d'exercice, tout à la fin du travail, moment de conscience totale, de libération, moment où j'ai perdu toute intention d'écrire, de peindre, de dessiner, moment où la parole a lieu toute seule, comme devant moi, hors de moi. Voilà, alors, il dit des choses très intéressantes, Monsieur Novarina, là. Est-ce que tu peux nous dire en quoi ça te parle, cette parole de Novarina, Thierry?
Disons que peut-être en écrivant, en commençant ce travail-là, cette expérimentation-là, cette pratique, j'ai assez vite repéré comme des gens d'une famille. Moi qui suis pourtant... ayant un rapport conflictuel un peu compliqué avec cette idée de famille, quand même. Des gens comme Novarina, comme Gerasim Luka, dont on a parlé l'autre fois, j'ai repéré tout de suite qu'ils racontaient des choses qui me touchaient. Et peut-être dans ce que raconte Novarina là, il y a tout ce qu'il raconte... de l'ombre aussi qui se transmet de ce qui n'est pas dit, qui se transmet dans ce qui est dit. Et puis, je ne sais pas s'il le dit là d'une façon explicite, mais il dit souvent que le sens se dénoue chez celui qui écoute. Et c'est vraiment pas rien. Mm-hmm. C'est-à-dire que...
Celui qui écoute a une partie enfin, participe au sens, quoi. Il n'est pas là seulement en tant qu'écoutant ou passif.
C'est ça. On serait là, du coup, dans un... Comme une...
Une collaboration.
Oui, et puis face au langage, comme à quelque chose qui est en ébullition et qui le langage avec lequel celui qui parle ne donne pas le dernier mot.
Voilà. D'accord. Eh bien, nous allons poursuivre avec une première pause musicale. Je vous en dis deux mots. C'est un morceau de violoncelle composé par Gyorgy Kurtág, qui est un compositeur hongrois, qui est interprété ici par Jean-Guilhem Keras. Kurtág est né en 1926. Il a été, à un moment donné en France, l'élève d'Olivier Messiaen dans les années 50. Et il a été inspiré à plusieurs reprises par les œuvres de Beckett. Et encore récemment, en 2018, il a fait une composition à partir de la pièce de Beckett qui s'appelle « Fin de partie ». Alors justement, à l'occasion de cette émission, j'ai relevé une parole de lui, de Courtag, qui me semble assez proche de ce qu'on vient d'entendre de la part de Valère Novarina, quand il dit que le texte advient lorsqu'il a perdu toute intention d'écrire. Courtag, lui, le dit à sa façon, « Je n'ai vraiment ni savoir, ni technique. La musique ne peut naître, au moment où elle veut naître. » Fukushima, mon amour. Viens vite, mon amour, couchons-nous sur le sol. Le soleil aussi est une centrale nucléaire. Nous verrons bien demain nos enfants sur le sable construire des bunkers. La mer s'en est allée. Le ciel est rose pâle. C'est dans il y a longtemps, des années. C'est maintenant qu'il faut. Enlève ta robe. Faisons l'amour ici, sur le béton armé. La jouissance aussi est une explosion nucléaire. J'ai beau mesurer en fièvre seconde le chant d'un corbeau en guise d'écharpe, l'espace décrit par ton ventre nu, l'humidité saugrenue de tes lèvres au mois d'août, de tes mains ténues, les cheminées odorantes. Il manque à mes sens quelques dodécaphonies. Double-moi de tes ailes, trouble-moi. À moitié nu, je t'ai vu, en miroir, notre image inversée. J'en appelle au vent pour qu'il me découvre, à l'eau pour qu'elle me renouvelle, à la glace pour qu'elle me déprenne, au feu pour qu'il me ravive, aux animaux pour qu'il me renomme. Homme. Quelqu'un danse au fond des immeubles. Ce n'est pour personne. Et ceux qui le voient, c'est en moi ce qui bouge encore. Pour te retrouver, reste un miroir à traverser, puis trois rivières. Les bottes de sept lieues me seraient bien utiles, mais c'est toi qui les as. Malgré l'éclat d'été du regard chaud que tu me portes, la partie gauche de mon visage demeure sous la neige.
Interprète. J'arrondis. L'essence. Tes paroles. Tes gestes. En regard. Je dérive. Les espaces, tes pauses, tes silences, une main qui appelle, ça tombe bien. Un samedi, c'est si dense, un aller, tout avance, des mots gros, explicites, des petits, en dessous, sous la couette. Une main qui m'appelle, un sexe explicite, c'est encore. interprète. Dans le creux, l'absence, les souffles, les cris, appels, les lieux, la date, le retour, le nouveau, les murs blancs, interprète, après coup, j'emporte, pièce après pièce, en laissant ouverte la porte, c'est la danse, me revient la descente, explicite ma main, amplement la musique sur tes reins, et rien qui arrête la montée au-dessus, tout est là, pente raide, la chaleur et l'eau sur mes reins, vêtements sur le sol ou roulés en boule, nudité de tes mains et le reste interprète, explicite, jardin, c'est un ventre, ton cou qui se tend, ma main implicite, j'entends l'appel, j'interprète, je plante un chemin de gestes, défatigue mes sens en alerte, tes cheveux défaits par-dessous, de loin monte un chant de caverne à mes lèvres de vent. Je descends l'artère principale, les plis de ton lit, l'escalier en alcôve, le rideau levé du jour, dérobé à la porte, un baiser, c'est derrière la vitre, une main qui se lève, j'interprète le silence, le ruban de la route, la nature des fossés, l'oranger du ciel.
Alors, une voix singulière, remplie de silence, c'est celle de Jacques Lacan. Alors, comment on peut relier Jacques Lacan à la poésie, pour toi, Thierry?
Jacques Lacan s'est essayé un tout petit peu à la poésie quand il a rencontré les surréalistes. Il a fait assez peu de choses et bon, après il a travaillé comme on le sait dans le champ de la psychanalyse. Alors ce dont il parle là, quand il dit la vérité, on ne peut pas la dire toute. Bon, c'est Il ne parle pas tout à fait du poème. Mais il y a quelque chose qu'on peut... Oui, il y a quelque chose qu'on peut y relier, dans le sens où cette affaire de langage, le poème, et que le langage manque toujours son objectif, son but, de pouvoir saisir quelque chose de façon ferme. Et peut-être que c'est... Et que la poésie, plus que d'essayer de cacher ça, parce qu'il y a quelquefois des formes de discours qui essayent de cacher le fait que, que les mots manquent pour dire vraiment. Alors, il y a quelquefois des discours qui disent les choses, non, les choses sont comme ça, comme si les mots suffisaient à exprimer des vérités. Et avec la poésie, peut-être, c'est ça qu'on met en... presque à l'honneur, c'est ce manque à dire.
Ouais, c'est comme si la poésie révèle un peu l'insaisissable, finalement.
Oui, et puis enfin, après, on cherche toujours à trouver mieux les mots, mais en tout cas, quelque chose toujours échappe. C'est
peut-être ça qui nous trouble, justement, quand on l'écoute ou quand on la lit.
Oui, et c'est peut-être avec cette partie qui échappe, dont on a quelquefois besoin de se relier.
Un petit peu comme les lapsus ou les actes manqués nous échappent dans la vie.
Oui, qui sont, paraît-il, des actes réussis.
Voilà.
Au final.
Alors, ce que tu dis, ça me fait beaucoup penser à un texte d'un poète dont j'ai déjà souvent parlé ici, un poète et ami, Gabriel Le Gall. Et bah, si tu veux bien, je le dis, parce que je trouve que ça a à voir aussi avec ce que tu viens de nous expliquer. C'est un texte qui est tiré du recueil « Ainsi va le poème ». Nous fûmes balbutiements et soubresauts avant d'être une voix. Il nous fallut temps et patience aussi pour mettre des mots sur nos sursauts premiers. Il en est qui sont restés rebelles. C'est eux, peut-être, qui essaient d'avoir enfin leur chance au rythme du poème. Ou, si c'est un jour, par grâce, le monde qui accorde son battement à ceux du cœur, lorsqu'enfin on a cessé de faire obstacle et qu'on s'est laissé traverser. Voilà, donc ces mots rebelles, un petit peu, ça revient à ce que tu disais tout de suite, qui viennent s'immiscer dans la poésie et qui justement font que la poésie ne ressemble à aucune autre forme de littérature aussi.
Oui, et puis il y a peut-être juste une petite chose qu'on pourrait dire en plus, c'est, je pense d'un coup à Gerasim Luka, dont on va entendre un texte maintenant, et qui avec d'autres poètes, mais celui-là particulièrement, je trouve, ce sont quand même des gens qui se méfient du langage, de quelquefois la façon dont on prend le langage comme pouvant édicter des vérités dernières, voilà. Mmh. Et Gerasim Luka, on dirait qu'il a quand même eu une espèce de... un travail de sape du langage de l'intérieur pour révéler tout un tas de sens qui sont, il racontait, qui sont contenus dans les mots qu'il faut ouvrir, etc.
Oui, oui, oui.
Et il y a quand même cette méfiance du poète envers l'essentialisme du langage.
Ben justement, alors on va entendre Gerasim Luka dans un texte dit par lui, qui s'appelle « Le tangage de ma langue ».
Des paroles douces et dès le départ scellées. La conque du silence frôle celle des récifs. D'où ce récit ? Happé par l'aimant du non-sens, je parle à peu près ceci. Pour dire précisément cela, je suis, hélas, donc on me pense. L'aveugle vise l'aigle et tire sur un sourd. C'est ainsi que je vis ce que je vois et que ma voix se voue au moi qui s'éteint. Comme le doux dans le doute, Suis-je le son de mes songes? À cette orgie de mots et d'assiettes à l'écoute, mon démon sonore agit sur un monde qui se nie, se noie et se noue au fond de ma gorge. Sorcier par onde, rythme, horde. Pour le rite de la mort des mots, j'écris. Mes cris, mes rires, pire que fou, faux. Et mon éthique phonétique, je la jette comme un sort sur le langage. En deçà de ceci, et au-delà de cela, hors de moi. Car être ailleurs tiraille l'heure d'abord et le maître ensuite. Leur arrêt est ici, mur du son, où l'on fusille un héros infini dont la houle cachée jette un tissu de mots, un infime drap de mort, sur le nu d'une muette couchée comme une huître dans les bras du zéro.
Je sens un peu de vent sur le visage. La femme de ménage a les doigts qui trempent dans l'eau de Javel. Je ne reconnais plus mon fils. Ce midi, le café a coulé à côté de la tasse. Personne ne parle plus à la maison. Juste la télé à 7 heures. Enfin seul, avec toutes ces questions posées à d'autres. Je suis un fleuve prenant sa source à l'ouest de la France. Qui suis-je ? Il reste un peu de soupe. Ma petite fille a déversé la maison changée en restaurant. Tout est en plastique et à manger. J'ai eu droit de la pizza. Et au fracas de sa parole contre les murs. La nuit tombe à l'intérieur. L'heure des volets. Le coucou sort de sa cabane pour voir les phares de la voiture de mon fils se perdre sur la route. Il reste l'écho de ses « comment ça va ?» Le comté est bon. Il vient d'où déjà ? Je le prends 15 euros le kilo au supermarché pour voir la femme qui emballe son sourire dans le papier sulfurisé me dire merci avec ses grosses lèvres pâles et son air comprimé. Je trébuche sur une pierre, le goudron colle un peu à ce que je ne reconnais plus. L'alignement des maisons où vivent de nouvelles gens. Hier, on a empoisonné le chat et fauché l'étendage à linge. Dans la cour, les enfants ont fait du vélo. Le petit dernier s'est coincé dans un tonneau, le con, il aurait pu y rester. Durant ses nombreux séjours dans un hôtel parisien, quel artiste surréaliste espagnol. Le téléphone a sonné un coup, puis plus rien. Je me suis endormi avec la télé qui cause toute seule. Un peu de vent sur le visage. Nous partions à 5 heures, après les devoirs. Les canapèches vissées sur le toit. L'odeur de vase et la bouse de vache qui craquelle. l'eau qui va quelque part et la famille sur le champ. Toujours le même rythme, sans à-coups, sans remous, sauf ceux que j'inscris à la surface d'un coup de gueule. Les cannes des enfants se sont encore prises dans les arbres. On a escaladé des barbelés pour rentrer, les moustiques collent au pare-brise. Je ne veux plus être commandé par personne. Je marche un peu plus vite car ça descend. On dirait la serpent de mer direction Saleda de la sortie. La frontière, le village fantôme. Mon corps décrit un U dans l'espace vide d'un virage à droite. Les souvenirs laissés derrière disparaissent de ma vue. Je regarde devant. Personne ne m'attend. Est-il possible de disparaître tout à fait de la surface des autres, de leurs préoccupations, de leurs attentes? Ce n'est pas facile. C'est un exercice délicat. Sur un fil, là, maintenant, on dirait oui. Juste le vent, plus de maison, rien que mes pas, dont j'étouffe un peu le son contre le sol. Les yeux des gens se sont tus. Leurs voix s'adressent à d'autres. On dirait c'est le bon moment. Je peux enfin disparaître.
Toujours Jean-Guilaine Queyras au violoncelle, dans une pièce de Sándor Veres, autre compositeur hongrois, la génération d'avant Courtag, puisqu'il est né en 1907 et mort en 1992. C'est quelqu'un qui fut un des maîtres de Courtag, après avoir été lui-même élève de Bartók. On continue, Thierry.
Je veux du sexe danser une relation qui dure le temps qu'il faut pour disperser sans rhume sur le corps alangui d'une voisine la rigueur établie comme réponse à la crise et 100 mètres de peur parcourus à la nage, la courbe de sa main répondant au bistrot des contrefaçons grossières qu'ici. Il y a des droits et des devoirs, à commencer par vous, le millième visiteur de ces lignes et heureux gagnant, dont il ne restera si l'incendie gagne du terrain qu'un train de bonnes intentions, car il faudra trouver le responsable de cet engrenage et s'entendre sur les dépenses engagées. L'univers s'étend sur la France entière et ce n'est pas un gringalet de votre taille qui fléchira le cours de l'histoire à se dévisager ainsi pendant les heures du mois de juin où les ouvriers de chez Bosch écrivent des poèmes sur les roulements à billes de leurs émotions feintes.
Alors, comme ça, pouvez-vous dire à nos auditeurs à quel endroit et de quelle façon vous avez débuté ce travail titanesque dont nous vous sommes redevables
et pour lequel nous sommes réunis ce jeudi au palais de Tokyo malgré le contexte sanitaire
fortement dégradé de ces 3 derniers mois et la difficulté croissante que nous éprouvons tous à échanger sur nos vies malmenées et considérablement amoindries.
Ne faudrait-il pas en déduire que le siècle commença s'y prend là comme un manche? Je suis né à matin de janvier 69
et pourtant loin de moi toute idée de revanche. La cour de l'école ne m'a jamais rempli ni d'honneur ni d'exil.
C'est à peine si manger le 4 heures de maman m'avait dissuadé de devenir un homme. Je me suis fabriqué d'une seule pièce et pourtant les atours de la gloire ne me séduisant pas,
j'ai conquis pas à pas ce qu'ont laissé les autres. Ce n'est pas par défiance mais plutôt par égard.
M'emparant de ce qui a coutume de lasser, de tout cœur merci pour cette belle franchise. Que l'exemple
donné à notre belle jeunesse finisse par porter d'une voix haute et forte les nouveaux paradigmes d'un avenir augmenté,
d'autant plus désiré qu'il se défait d'attendre.
Elle se déshabille et ses seins portent la marque d'un maillot de bain qu'elle n'a pas ôté cet été sur une plage où je n'irai jamais. Je suis issue d'une famille de 10 enfants et le coût des études supérieures permettant d'acquérir une situation confortable étant trop élevé. Nous sommes restés rivés aux petites maisons de notre campagne de Lozère. Il y avait un pont de pierre à mi-chemin de l'école, nous l'empruntions pour y aller et le soir, la cloche sonnait, nous le rendions sans faire d'histoire. Il y avait aussi cette figure familière, une sorte d'arbre centenaire dont la circonférence nous imposait à tous le silence, presque une forme de piété teintée d'un peu de jalousie quant à nous autres garnements, à dire vrai, bien modestement, nous tentions de le ceinturer, il fallait être au moins 5. Mais que fait-elle? Elle se rhabille et passe maintenant le seuil de la porte. Je n'ai jamais de chance avec les filles. Il faut dire que je suis issue d'une famille de 10 enfants et que nous n'avions guère le loisir de regarder en l'air toujours la charge d'un petit frère sur les bras. Alors, 3 télépoèmes. Qu'est-ce que c'est un télépoème?
On voit pas parce qu'on a la radio, c'est des petits poèmes en forme de carré, comme si ça ressemble à une télévision. Et le premier m'était venu en écoutant la radio, je crois que je cherchais une station et en entendant tout ce qu'il y avait dans la radio, ça m'a donné une petite envie de...
De mélanger
de faire comme une espèce de blague, mais à vrai dire, c'était plus qu'une blague. C'était essayer de rendre des espèces de petites choses comme ça, partant absolument dans tous les sens, et tout en y cherchant un chemin quand même, mais il est quelquefois bien difficile à suivre.
Oui.
Et après, j'en ai écrit d'autres, une fois le premier fabriqué. Ils ont tous un peu leur... des fois c'est des pensées
dans la tête qui s'enchaînent comme ça. Voilà. C'est toujours en tout cas des textes qui n'ont pas de ponctuation et pas d'endroit où respirer, donc il faut se débrouiller avec.
On essaie, on a essayé, on a réussi, je ne sais pas, mais on a essayé. Bien, et ben, on va continuer donc avec un texte que tu vas nous dire maintenant et qui s'appelle « Là où je vis ».
Là où je vis, c'est un espace à une dimension. C'est le coin de quelque chose qui n'a pas encore de forme. C'est au détour d'une phrase qui n'a plus d'objectif, le début d'un rêve. Là, au carrefour, d'un rond et d'un trou, d'une forge et d'une vielle. Là où je vis. Quand je crève les mots, l'abcès de conscience, où j'avance aveugle et beugle en silence, quand j'accours et chasse, les phonèmes, onèmes, onanisme, rage et orage sur la gueule, essuyant les averses de la littérature, quand je nomenclature et classe, je me ris à la gueule, car là où je vis, je ne construis rien. Là où je vis, c'est le zéro, qui danse les mots, qui les projette contre les murs les soirs de moi-même. Une bombe a explosé au cinéma des idées, dans l'arrière-boutique des poèmes à plaire, me laissant seul à terre, l'alphabet débraillé. Qu'importe, je geste mes frasques en poèmes. Là où je vis, je ne construis rien. Là où je vis, je mords la poussière de mon enfance, pour en faire les bords d'une révolte bouche bée. Je bégaye mes phrases, je leur tords les pieds, je vomis les virgules, les points, rien à péter. Je bégaye mes phrases comme un nouveau-né, cherchant dans la langue qu'on lui a fourguée. De quoi retourner à l'adresse d'un destinataire oublié, une sorte de poème, fronde, pied de nez. Là où je vis, c'est soudain, dans l'espace-temps de nos mains, rien vu arriver, l'aventure de tes jambes et le reste, la délicatesse du dessin, de ton corps contre le mien, de tes gestes, sur les doigts d'une main, nos nuits de caresses, la délicatesse de tes seins et la rosée du matin. Sur ton sexe, tes lèvres à mes lèvres enfin, pour dire le reste. Dans une prochaine vie de celle-ci, si ça veut rire, car là où je vis, c'est déjà filé. C'est à refaire, sans savoir faire, c'est déboussolé que j'avance à terre sans rien ou aller. Qu'importe, je jette en pâture de moi-même les chiens aux idées quand je me distance à la corde, quand je m'avance au-devant des phrases, quand apparaît le jour entre mes dents, quand sourd le poème du néant, arrangé par le soin de ce que peuvent encore mes mains, mes pieds, le vent, la colère, toute voile dehors, là je vis. Là, je lance mes couplets enragés à la gueule d'un monde qui répète son refrain. Là où je vis, ça ne finit rien, ça ne fait que commencer. À pousser contre les murs, c'est jamais assez. C'est en dehors que j'avance, dégingandé, en l'honneur de tous les défoncés pas clairs, les endeuillés de la vie belle et bien balancée, les fous, les pédés, les chiens cloutés, les punks à chier qui salissent les rues, prêts à porter l'hymne de tous les cabossés qu'ont pas pu, voulu, su, qu'étaient pas faits en entier pour porter les idéaux de leurs aînés enchaînés. Je vous le balance là. Où je vis, je vous le jette là. Je vous le pose là, mon poème du rien qui ne construit rien, qui passe en cassant le ciel des belles idées dans un fracas de verre. Thank you.
encore et toujours le violoncelle de Jean-Guyen Queyras. Et cette fois, on remonte encore d'une génération au sein de la musique hongroise, puisqu'il s'agit ici de Zoltán Kodály, 1882-1967, qui était à la fois compositeur et ethnomusicologue, quelqu'un qui a travaillé aux côtés de Béla Bartók au collectage de musique traditionnelle hongroise, qui ont aussi, on l'a entendu hein, dans cet extrait, fortement influencé son écriture. Voilà, on continue cette fois avec une chanson.
Un homme conduit un bus dont le pare-brise est cassé. Et comme il fait noir et qu'il pleut à verse, il emprunte à une passagère des lunettes de soleil qu'il chausse sur son nez. Un homme conduit un rickshaw d'une jambe malhabile. Devins-je me faire soigner à l'hôpital de la ville, il repartira sans vélo et plus léger, débarrassé de sa jambe gangrénée. Une femme tient boutique sous l'estanqueau du bus. Ici on prend le chai sans se comprendre. Dans une gamelle de fer nettoyée à la cendre, son beau visage de vieille au beau milieu de rien. Do-ré-mi, do-ré-mi, c'est un drôle de pays, celui où tu m'as pris par la main. Sa-ré-ga, sa-ré-ga, c'est un drôle de raga, orphelin. Une petite fille vend des cartes sur les rives du Gange, avec le sourire édenté d'un ange. Les vaches sont sacrées et les enfants n'ont rien qu'un peu de poussière d'or dans les mains. Le soleil qui fleurit à 5h du matin. Do-ré-mi, do-ré-mi, c'est un drôle de pays, celui où tu m'as pris par la main. Sa-ré-ga, sa-ré-ga, c'est un drôle de raga, orphelin. Do-ré-mi, do-ré-mi, c'est un drôle de pays, celui où tu m'as pris par la main. Sa-ré-ga, sa-ré-ga, c'est un drôle de raga, celui dont tu as l'air, je le transporte en moi. Un homme conduit un bus dont le pare-brise est cassé, et comme il fait noir et qu'il pleut à verse, il emprunte à une passagère des lunettes de soleil qu'il chausse sur son nez.
Voilà, et bien après l'Inde, on revient dans nos contrées pour une série de poèmes qui ont été écrits lors de circonstances un peu particulières. Tu peux nous dire, Thierry, de quoi il s'agit ?
Oui, alors, circonstances particulières, parce que y a quelque chose dont on n'a pas parlé et qui est finalement important, c'est à qui s'adressent les poèmes qu'on écrit. Souvent, d'ailleurs, c'est difficile à savoir. Y a une adresse, mais elle est quelquefois inconnue, ou en tout cas, elle est multiple. Enfin bon, difficile à dire. En tout cas, il y a quand même, le poème s'adresse toujours, il est en direction de quelqu'un, quelqu'une. Et là, alors avec Lionel Roland, qui est un vieux camarade de jeu, comme je dis, enfin ça fait longtemps qu'on travaille ensemble Moi disant des poèmes, lui jouant de la musique, guitare ou oud. Ça fait des années qu'on travaille et puis des fois on s'envoie des petites choses comme ça. Lionel m'envoie des musiques ou moi je lui envoie des poèmes. Un jour Lionel m'a envoyé un poème aussi. Pendant le mois de janvier, là, il y avait, on aurait dit que tout était arrêté. Il y avait du givre dehors. Et puis, c'était une période où on ne bossait pas. Enfin bon, on a commencé une petite correspondance comme ça. Voilà. Chaque jour, je lui ai envoyé un poème. Et il me répondait quelquefois avec une musique. Voilà. Et puis donc, c'est ce qu'on vous propose d'entendre. C'est une semaine de poèmes.
Au jour le jour.
Au jour le jour. Voilà, comme une petite correspondance.
D'accord.
Vendredi.
Je sors de la boulangerie, décidément, le patron fait toujours la gueule. Le croissant posé sur la table, au-dessus, le café et un verre d'eau rempli, je m'aperçois enfin qu'il sourit. Samedi.
En fermant les volets sur la journée d'hier, j'ai salué l'araignée et ses formes rebelles s'élançant dans le vide à l'assaut de l'espace. Le lampadaire aussi est un vieil ami. L'air était vif, la lune bien accrochée, de la brume en bourrasque m'a piqué le nez. Ce matin, en ouvrant, la toile est cassée. Le gel et le vent ont fait leur office. Désarmé de patience et de curiosité, j'attends la suite. Dimanche.
Des plombes que les cloches n'ont rien annoncé. Peut-être ai-je dormi jusqu'à la fin des heures? Et si dehors n'existait plus qu'à moitié, la maison et la rue suspendues dans l'espace? J'ouvre les yeux sur cette drôle d'idée. La clarté du givre me répond, tout est en place. Lundi.
Chaque matin, le voisin travaille le même sketch. Sa voiture étincelante ne veut pas démarrer. Une suite de va-et-vient dans la rue en pente. La tension est palpable. Derrière les fenêtres, nous sommes tous cachés, prêts à intervenir. Puis enfin, le déclic de l'engin mécanique libère le tonnerre de nos applaudissements. Mardi.
La voisine manque à la rue. Sa fenêtre est vide. La douleur est vive. Nous sommes de passage, locataires du présent. Et puis, twing, ça klaxonne. Voilà un camion d'emménagement. Quelle bouille ont les voisins. Mercredi.
La radio a annoncé la mort de l'hiver. Février 56 et 85 ne reviendront pas. Le thermomètre ne veut plus descendre. Les froids passent à l'été et à la canicule. Alors de ma fenêtre embuée, je dis adieu aux petits igloos des voitures immobiles, à l'âge vénérable des toits blanchis. L'hiver est mort, vive le froid. Jeudi.
Je me réveille épars ce matin. 50 ans passés, en un point de l'espace, des milliards de pensées et de péripéties, et ces bouts d'existence, en somme, ne semblent pas faire un. Il manque au puzzle la pièce de ce qui le regarde. Ce soir,
je me lève le pied gauche endormi. Midi tombe la nuit, toutes les heures s'en mêlent. À la radio, les nouvelles sont d'avant ma naissance. Replonger sous la couette et attendre le jour J. Voilà, alors vous venez d'entendre la guitare de Lionel Rollin, qui est accompagnée ici par Maëlène Dano à la harpe et Alexandra Chutova au violoncelle. C'est un tout nouveau disque que vient de sortir Lionel, voilà, qui... Alors ça s'appelle Le Retour de Gaspard, qui sont des titres inspirés librement du livre d'André Dautel, Le pays où l'on n'arrive jamais. Voilà, donc c'était pour faire un petit clin d'œil à l'ami Lionel.
Bien, mais je crois qu'il est grand temps de terminer cette émission. Donc, merci Thierry.
Merci Christine.
Pour ces deux émissions très agréables en ta compagnie. Et puis nous, on se retrouve le jeudi 19 mai, à la même heure. À bientôt, au revoir.
Au revoir et merci Jimmy à la technique. Merci à toi.
Ça manque pas de poésie. Christine Fusarelli.